Avant de lire dans les Écritures, nous prions. Éternel notre Dieu, ouvre notre esprit à l'intelligence de ta parole. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole accomplisse ta volonté en nous, qu'elle féconde notre vie. Que ta parole soit la vérité de notre existence, la lampe sur nos chemins. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai, jour de commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et aucun traité de paix n'a été signé à l'issue de cette épouvantable guerre. Alors je vous propose aujourd'hui de méditer sur des textes bibliques au sujet de la paix. En ces jours où la guerre tonne à nouveau en Europe et où de multiples inquiétudes pour l'avenir montent dans bien des esprits. Et le premier des textes, je vous en proposerai deux. Le premier se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Ésaïe, chapitre 2, versets 1 à 5. Parole d'Ésaïe, fils d'Amoz, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans la suite des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Une multitude de peuples s'y rendra. Ils diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Il nous enseignera ses voies et nous suivrons ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre d'une multitude de peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Puis dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par peur des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Paix avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » C'est la première parole du Christ ressuscité à ses disciples dans l'Évangile de Jean. Paix à vous. Il s'adresse à ses disciples rassemblés dans un endroit bien fermé parce qu'ils ont peur des Juifs, écrit l'évangéliste. Et la scène est donc située à Jérusalem, la ville de la paix, celle évoquée par le prophète Ésaïe dans une vision qui montre les peuples de la terre convergeant vers la ville pour y entendre la parole de l'Éternel. Mais ces jours pour les disciples à Jérusalem sont bien différents des jours indiqués par Ésaïe. car ce sont des jours sombres, marqués par la violence, par la mort en croix de Jésus de Nazareth, par la peur de subir cette même violence en tant que disciple du Nazaréen. Des jours sombres. Et d'ailleurs, Jean écrit que c'est le soir. La nuit tombe, l'obscurité se répand, les ténèbres dominent. C'est le temps où l'on ne voit plus ni dans l'espace ni dans le temps. On ne voit plus où l'on est, ni où on va, ni ce qui est là, ni ce qui vient. La nuit du monde, comme celle où beaucoup de nos contemporains se sentent, et peut-être nous-mêmes nous sentons plongés et environnés de ténèbres, de menaces, étreints d'angoisse, de frayeur, d'anxiété, et coincés, enfermés dans une peur difficile ou impossible à maîtriser. Les portes sont verrouillées, et j'en écris pas que ce sont les disciples qui les ont bien fermées. Et ce qui nous fait comprendre, et ce peut être une expérience de l'un ou l'autre, que la peur peut nous emprisonner sans que nous le voulions. Nous ne choisissons pas toujours d'être enfermés, d'être empêchés de cheminer ou de nous épanouir. Peur des Juifs, selon l'évangéliste, mais ce qui se joue là n'a rien à voir avec un regard négatif sur le judaïsme. Souvenons-nous que Jésus lui-même était juif. Cette peur, c'est profondément la peur d'une menace portée par ceux qui se livrent à l'usage de la force et de la violence, du pouvoir et des armes qui ne sont pas toujours des épées et des lances, des missiles et des drones, mais qui peuvent être utilisées dans bien d'autres lieux par bien d'autres moyens. Alors les disciples se sont mis à l'abri, un peu, un temps. Mais de ces abris-là, il faut bien toujours sortir à un moment et se retrouver à nouveau exposé au danger. La peur peut conduire à fuir, à chercher un lieu à l'écart, à s'extraire du tumulte, comme elle peut à son tour conduire à la violence, dérivant en haine de ce qui fait peur ou de ceux qui font peur. Comment cela peut-il s'arrêter ? Cependant, ce soir-là, c'est aussi le soir du premier jour de la semaine. C'est le premier jour de la semaine, écrit Jean. Et le premier jour de la semaine, c'est le premier jour de la création. Le jour où la lumière advient au milieu des ténèbres, à travers les ténèbres, ainsi que nous le lisons dans le premier chapitre du livre de la Genèse. Et le ressuscité survient au milieu du groupe des disciples enfermés, reclus, confinés dans leur peur. Et avec lui survient la paix. La paix fait irruption. Paix à vous. Ce n'est pas un souhait, comme le laisse entendre la formule traditionnelle, que la paix soit avec vous. La paix est là, vraiment là, dans cette présence qui se joue des murs et des portes closes. Le Christ vivant est venu à l'aide des disciples, à leur secours. Il est venu les sauver, parce que les disciples eux-mêmes ne pouvaient rien faire, ligotés dans la peur comme ils l'étaient. Nous ne pouvons pas toujours échapper tout seuls à ce qui nous enferme ou aux peurs qui nous étreignent. Il faut que le secours nous vienne d'autres personnes, ou même d'ailleurs que de ce monde, de la transcendance qui donne sens à l'ensemble et qui alors se fait proche. Paix à vous. Ce n'est pas la fin d'un conflit entre des adversaires, entre des armées. Ce n'est pas une paix à négocier, à signer par un traité qui pourrait être bafoué un peu plus tard. C'est la paix intérieure d'un être libéré du poids de la peur et de la haine, libéré du passé qui pèse, libéré de la faute qui enchaîne. Car de ses disciples, certains avaient fui, avaient renié, s'étaient tenus à distance du procès et de la croix. Le Christ n'exprime aucun reproche, aucune condamnation. Il ne leur en veut pas. Lui, il les retrouve là où ils sont, là où ils en sont, enfermés dans leur peur. Une reprise de présence et d'amour pour laquelle les disciples n'ont pas eu à faire le moindre effort pour le rejoindre lui, par exemple. Parce que c'est lui qui vient. C'est toujours lui qui vient. En passant les murs et les portes closes, à l'intérieur de nos obscurités, de nos confusions, de nos ambiguïtés et de nos limites, comme un murmure qui chuchoterait au creux de l'âme, tu n'es pas perdu, tu n'es pas fini. C'est une paix comme un pardon, comme une délivrance, une paix comme une guérison, comme une grâce, et c'est une œuvre divine de restauration, de recréation, de résurrection et d'humanité. Il n'est pas d'autre paix que celle qui commence en soi-même, qui dénoue les liens intérieurs de la peur, de la rancune, de la haine, de la honte. Et le prophète Ésaïe le disait déjà à sa manière. Car la paix qu'il évoque ne commence pas par cette transformation des armes en outils, des épées en socs de charrue. La paix commence par l'écoute de la loi, de la Torah, c'est-à-dire de ce que l'Éternel veut enseigner, ce dont il veut instruire son peuple et tous les peuples. Il ne s'agit pas là de la somme de prescriptions au sujet de ce qu'il faut précisément faire ou ne pas faire au quotidien ou dans des circonstances particulières. La loi, la Torah, la parole divine ne vise pas à la soumission de l'être, mais à son édification et même à son élévation. Élévation pas vers un surêtre augmenté, mais vers l'humanité véritable, l'humanité en plénitude, qui est ainsi à la fois une promesse et un don, un horizon et un chemin. C'est bien ce qu'a fait Jésus de Nazareth, avec la Samaritaine et l'aveugle de naissance, avec le paralytique à la piscine de Bethesda et la femme adultère, et aussi en lavant les pieds de ses disciples. Une œuvre de restauration et d'élévation, et qui a provoqué la colère et la haine des hommes de pouvoir qui préfèrent les systèmes de domination aux dynamiques d'affranchissement. La paix commence par l'écoute de la parole de Dieu, qui sort de Jérusalem parce que Jérusalem, c'est la ville du temple, la ville de la présence de l'Éternel. La paix de la vision d'Ésaïe, c'est la conséquence d'une transformation de l'esprit des peuples, une transformation de l'esprit humain qui, sans l'aide de cette parole divine, ne sait pas renoncer à l'usage de la force. Avant la destruction des armes, il faut l'ouverture de l'âme. Et alors la réconciliation et la paix sont possibles. L'Éternel sera l'arbitre d'une multitude de nations. Il résoudra les différends entre les peuples, entre les personnes, c'est-à-dire que l'âme éclairée, l'esprit éveillé par la parole divine, l'humain regarde et comprend et vit autrement son humanité et ses relations. La centralité et le caractère essentiel de la parole de Dieu dans la vision du prophète se retrouve dans la présence du Christ qui surgit là au milieu de ses disciples. Ce Christ, dont l'évangile de Jean commence par déclarer dans son premier chapitre qu'il est parole de Dieu faite chair. L'écoute de la parole, c'est cette Jérusalem d'Ésaïe, que ce soit à Jérusalem ou n'importe où ailleurs dans le monde. Et de même que la perspective de la vision d'Ésaïe est universelle, de même la paix qui survient avec le Christ est pour tous. Car il peut y avoir différents noms donnés à la transcendance qui oriente l'existence dans la justice et dans la paix et pour la vie en plénitude. et peut-être même pas de nom particulier qui lui soit donné. Il peut y avoir différentes traditions permettant de comprendre et d'entrer en relation avec cette transcendance, d'en être nourri et animé et de devenir ainsi humain, puisqu'être humain, ce n'est jamais seulement une question de biologie, mais une question spirituelle. Et le Christ est le nom donné à la puissance de transformation, de restauration, de recréation, de résurrection de cette transcendance qu'ici nous nommons Dieu éternel ou notre Père ou d'autres noms encore. Le Christ n'est pas réservé au christianisme ni aux chrétiens. Et lorsque cette dynamique est présente dans les discussions de paix du monde, alors la paix a vraiment des chances de l'être véritablement. La paix advient dans la présence du Christ qui libère les disciples enfermés, diminués, rétrécis dans leur peur et qui les relève dans la paix. La Torah, la loi, l'évangile fondent et orientent une manière, une qualité d'être que les récits des évangiles nomment aussi le règne de Dieu. Une qualité d'être avec et pour autrui, en particulier la veuve, l'orphelin, l'étranger, le malade, le pauvre, l'exclu. Une qualité d'être en solidarité, en respect, en fraternité, appuyée sur la justice et la paix dans la Bible hébraïque, sur la grâce et la paix dans le Nouveau Testament, ou encore, pour l'un et l'autre testament, sur l'amour. La paix que porte le Christ ressuscité n'efface pas la crucifixion. Il leur montre ses mains et son côté, les marques de la souffrance et de la mort, de l'injustice et de la violence. Et comme il y en a tant, aujourd'hui comme hier, de souffrance et de mort, d'injustice et de violence, eh bien, les disciples sont envoyés, et nous sommes envoyés, porteurs de grâce et de paix, et portés par l'esprit, le souffle, l'énergie de la création et de notre inspiration, envoyés comme le Christ l'a été pour faire œuvre de réconciliation, de guérison, de restauration, en paix. C'est notre vocation. Et c'est-à-dire que nous en sommes capables, chacun avec sa personnalité, ses moyens et selon les circonstances. Et à qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Bien sûr, mais ne nous trompons pas. Nous sommes envoyés poursuivre auprès de nos contemporains l'œuvre du Christ, et cette œuvre-là, c'est une œuvre de pardon, de libération, d'élévation, comme il l'a accompli avec le centurion romain, avec l'aveugle Bartimée, avec Marthe, avec Pierre. Jamais Jésus le Christ n'a enfermé quiconque dans le malheur, ni privé qui que ce soit de sa présence bienfaisante, ni refusé de sauver qui le lui demandait. Nous n'avons pas à nous ériger en juge. Si nous n'apportons pas, si nous n'allons pas en paix, si nous ne pardonnons pas, oui, ceux à qui nous ne pardonnerons pas resteront ligotés. Et ce sera de notre faute à ce moment-là. Nous sommes envoyés pour délier, pour élargir, pour ouvrir des portes en vivant cette paix donnée, en témoin de la parole fondatrice d'humanité, de l'évangile de grâce, de l'aube du premier jour dans la nuit de ce monde. Amen.